16. Ils rejoignirent Jake au moment où les derniers loups chargeaient. Quelques-uns lancèrent des vifs d'argent. Rolante et Eddie les interceptèrent sans mal. Jake tira 9 coups avec le rugger, 9 coups sûrs et espacés, le poignet droit stabilisé par la main gauche. À chacun de ces tirs, ou bien un loup basculait de sa selle et tombait en arrière, ou bien glissait sur le côté pour se faire piétiner par les chevaux arrivant derrière lui. Quand il eut déchargé le rugger, Rosa en élimina un 10e, en hurlant le nom de Dame Horitza. Thalia Jaforce les avait rejoints, elle aussi, et elle eut raison du 11e. Pendant que Jake rechargeait son arme, Roland et Eddie, debout, côte à côte, se mirent à l'œuvre. Ils auraient pu se charger à eux seuls des 8 rescapés. Eddie ne fut pas très surpris de constater qu'il y en avait 19 dans ce dernier groupe. Puis ils laissèrent les 2 derniers à Jake. Tandis qu'ils approchaient, en agitant leur lumitrique au-dessus de leur tête, en moulinet, qui aurait eu de quoi terrifier une poignée de fermiers, le garçon fit sauter d'une balle le bonnet de pensée de celui de gauche, puis il fit un pas de côté, esquivant le dernier loup qui tentait une dernière charge, presque à contre-cœur. Son cheval sauta par-dessus les corps empilés au bout du chemin. Susanna était de l'autre côté de la route, assise au milieu d'un fouillis de ferrailles, de lambeaux de tissus verts et de masques pourrissants. Elle aussi était couverte du sang de Margaret Eisenhart. Roland comprit que Jake voulait laisser le dernier loup à Susanna, qui aurait eu toutes les peines du monde à les rejoindre sur le chemin à cause de ses jambes. Le pistolero hocha la tête. Le garçon avait vu une chose effroyable ce matin. Il avait essuyé un choc monstrueux. Pourtant, Roland était certain qu'il allait s'en tirer. Otté, qui les attendait au presbytère du père, l'aiderait sans aucun doute à traverser cette période de chagrin.
« Dame ! Oh ! Ritza !»
s'écria Susanna en lançant un ultime plat, alors que le loup faisait tourner son cheval, le dirigeant vers l'est et ce qui devait être chez lui. Le plat s'éleva en gémissant et trancha net le dessus de la capuche verte. Pendant une seconde, ce dernier voleur d'enfants resta assis en selle, secoué de soubresauts dans le vacarme de son alarme, appelant du secours qui ne viendrait pas. Puis il bascula violemment en arrière, accomplissant un véritable salto en l'air, et s'écrasa sur le sol dans un choc mat. La sirène s'interrompit brutalement au milieu d'un vagissement. « Et c'est ainsi, se dit Roland, que s'achèvent nos 5 minutes. » Il baissa un regard morne sur le canon fumant de son revolver, puis le glissa dans son étui. L'une après l'autre, les alarmes des robots abattus s'arrêtaient. Thalia le regardait avec un air d'incompréhension hébété.
« Roland ! »
s'exclama-t-elle.
« Oui, Thalia. C'est fini ? Ils sont vraiment morts ? Est-ce que c'est possible ?»«
Tous morts, » répondit Roland. « J'en ai compté 61, et ils sont tous là, sur la route ou dans le fossé. » Pendant un moment, la femme de Tian restait immobile, enregistrant l'information. Et alors, elle fit quelque chose qui surprit un homme que plus grand-chose ne surprenait. Elle se jeta contre lui, pressant franchement son corps contre le sien, et lui couvrit le visage de baisers voraces et humides. Roland en supporta un peu, puis l'écarta. C'était l'heure de la nausée, du sentiment d'inutilité. Cette impression qu'il mènerait des batailles de ce genre encore et encore, pour l'éternité, perdant ici un doigt à cause des omarstruosités, peut-être un œil à cause d'une vieille sorcière vicieuse, pour sentir après chaque bataille que la tour sombre s'était encore éloignée au lieu de se rapprocher. Et pendant ce temps, l'arthrite sèche se frayait un chemin jusqu'à son cœur. « Arrête !» s'ordonna-t-il. « Ça n'a aucun sens, et tu le sais bien. »«
Est-ce qu'ils en enverront d'autres, Roland ?»
demanda Rosa. « Peut-être n'en ont-ils pas d'autres à envoyer, » répondit Roland. « Et s'ils en envoient, il y en aurait sans doute beaucoup moins. »« Et maintenant, vous connaissez leurs points faibles, pas vrai ?»«
Oui, » dit-elle en lui adressant un sourire féroce. Et un regard qui lui promettait plus que des baisers plus tard, s'il le souhaitait.
« Traversez le champ de maïs, » lui dit-il. « Toi et Thalia, allez leur dire qu'ils peuvent revenir, qu'il n'y a plus rien à craindre. Dame Horitza a porté chance à la Cala aujourd'hui.
et à la lignée d'Eld aussi.
« Vous ne voulez pas venir vous-même ? » lui demanda Zalia. Elle s'était écartée de lui, les joues en feu.
« Ne voulez-vous pas venir et les laisser vous porter en triomphe ?»«
Peut-être plus tard les entendrons-nous tous pousser des cris de triomphe. Pour l'instant, nous devons converser en tête. Ce garçon a vécu un choc terrible, vous intuitez. »
« Oui, » dit Rosa. « Oui, très bien.
Bien, Zi. » Elle prit la main de Zalia.
« Aide-nous à leur porter la bonne nouvelle. »
17. Les deux femmes traversèrent la route, faisant un large détour à la hauteur des restes ensanglantés du pauvre petit Slightman. Zalia se dit que le peu qu'on voyait encore de lui ne tenait plus ensemble que grâce à ses vêtements. Elle frissonna en pensant au chagrin de son père. La dame Sai, à courtes jambes du jeune homme, se trouvait à l'extrémité nord du fossé, examinant les cadavres éparpillés des loups. Elle en trouva un dont la petite chose tournante bougeait encore. Les mains gantées de verre du loup s'agitaient convulsivement dans la poussière comme prise de tremblotte. Sous le regard de Rosa et de Zalia, Susanna ramassa un gros morceau de roche et, aussi calme qu'une nuit de terre vide, elle l'écrasa sur les restes du bonnet de poncée. Le loup s'immobilisa instantanément. Le grondement sourd qu'il produisait se tut.
« Nous allons l'annoncer aux autres, Susanna, » dit Rosa. « Mais nous voulions d'abord te dire bravo, et que nous t'aimons de tout cœur, vrai ?»
Zalia opina du chef.
« Grand merci, Susanna de New York. On ne dira jamais assez grand merci, beaucoup, beaucoup. »« Oui, là, vrai !» acquiesça Rosa.
La dame Sai leva les yeux et leur adressa un doux sourire. Pendant une seconde, Rosalita eut l'air un peu dubitative, comme si elle observait dans le visage brun quelque chose qu'elle n'aurait pas dû y voir. Que Susanna Dean n'était plus là, par exemple. Puis l'expression de doute disparut.
« Nous allons porter de bonnes nouvelles, Susanna !» dit-elle.
« Que la joie vous accompagne, » fit Mia, fille de personne. « Ramenez-les quand vous voudrez, dites-leur qu'il n'y a plus de danger et que ceux qui ne le croient pas viennent compter les morts. »
« Votre pantalon est trempé, savez-vous ?»
fit remarquer Zalia. Mia hocha gravement la tête. Une autre contraction avait rendu son bas-ventre dur comme pierre, mais elle n'en montra rien.
« C'est du sang, j'en ai peur. »
D'un mouvement de la tête, elle désigna le corps décapité de la femme du gros rancher.
« Le sien ?»
Main dans la main, les femmes s'engagèrent dans le champ de maïs. Mia vit Roland, Eddie et Jake traverser la route dans sa direction. C'était maintenant qu'il y avait danger. Mais peut-être pas tant que ça, après tout. Les amis de Susanna avaient l'air hébétés après cette bataille. Si elle-même prenait un air un peu déconfit, peut-être n'y verrait-il que du feu. Elle se dit qu'il faudrait juste attendre la bonne occasion. Attendre, puis s'éclipser. Pendant ce temps, elle chevauchait la contraction de son estomac comme un bateau chevauchant un rouleau.
« Ils sauront où tu es allé !» chuchota une voix.
Pas une voix dans sa tête, une voix dans son ventre. La voix du petit gars. Mais cette voix disait vrai.
« Prends la boule avec toi !» lui ordonna la voix. « Emporte-la en partant. Ne leur laisse aucune porte pour te suivre. »
Si fait. 18. Le Roger fit claquer un seul coup de feu et un cheval mourut. En contrebas de la route, des rizières monta un rugissement de joie qui avait renoncé à toute incrédulité. Zalia et Rosa avaient délivré leur bonne nouvelle. Puis un hurlement déchirant de chagrin perça le brouhaha d'allégresse. Elles avaient aussi délivré la mauvaise. Jake Chambers s'était assis sur la roue du chariot retourné. Il avait détaché les trois chevaux encore valides. Le quatrième, qui gisait avec deux jambes cassées, la bouche ourlée d'écume, avait adressé un regard au garçon, demandant de l'aide. Le garçon la lui avait donnée. À présent, il contemplait le corps de son ami mort. Le sang de Benny s'insinuait dans la terre de la route. La main au bout du bras de Benny était tournée vers le ciel, comme si le garçon voulait serrer la main de Dieu. Quel Dieu ! À en croire le bruit qui courait, le sommet de la tour sombre était vide. Des rizières de Dame Horitza monta un deuxième hurlement de douleur. Lequel était celui de Slightman, lequel celui de Von Eisenhart ? À cette distance, se dit Jake, impossible de distinguer le fermier de son contremaître, l'employeur de l'employé. Y avait-il une leçon à tirer de tout ça, ou bien était-ce là ce que Madame Avery, de cette bonne vieille école Piper, aurait appelé la peur, les fausses preuves qui apparaissent comme réelles ? Cette paume tendue vers le ciel éclatant, voilà qui était bien réel. Les Falcons s'apprêtaient maintenant à chanter. Jake reconnut leur chanson. C'était une nouvelle version de celle que Roland avait chantée lors de leur première soirée à Calabrian Sturgis. « Comme à Comala, le riz nous tombe dans les bras, petite sœur, sors l'ombrelle. Ah, viens, Comala, le riz nous tombe dans les bras, et coule la rivière, oui, là. Oh, Ritza nous appelle là pour voir le riz nouveau, tout beau, comme à Comala. » Le riz balança au passage du cœur des Falcons, balança comme s'il dansait de joie, lui aussi, comme Roland avait dansé pour eux à la lueur des flambeaux. Certains portaient dans leurs bras des babets, et même ainsi chargés, ils balançaient de droite et de gauche. « Nous avons tous dansé ce matin, » pensa Jake. Il ne savait pas ce qu'il voulait dire par là, il savait seulement que c'était une pensée vraie. « Cette danse que nous exécutons, la seule que nous connaissions, Benny Slightman, mort en dansant, Cy Eisenhart aussi. » Eddie et Roland s'approchèrent de lui. Susanna aussi, mais elle prit son temps, comme si elle avait décidé de les laisser entre garçons, au moins pour un moment. Roland fumait, et Jake lui adressa un signe de tête.
« Roule-moi une, tu veux ?»
Roland se tourna en direction de Susanna d'un air interrogatif. Elle haussa les épaules, puis fit « oui » de la tête. Roland roula une cigarette à Jake et la lui tendit. Puis il fit craquer une allumette sur son pantalon et alluma la cigarette. Jake demeura assis sur la route, tirant parfois une bouffée, la retenant dans sa bouche, puis la soufflant. Sa bouche se remplit de salive. Il s'en fichait. Contrairement à d'autres choses, on pouvait cracher sa salive. Il n'essaya pas d'inhaler la fumée. Roland contemplait la colline en contrebas où le premier des deux hommes pénétrait en courant dans le maïs. « C'est Slightman, » dit-il. « Bien. »«
Pourquoi bien, Roland ?» demanda Eddie. « Parce que Cy Slightman aura des accusations à faire, » dit Roland. « Dans sa peine, il ne se préoccupera pas de savoir qui les entend ou de rendre compte de son rôle dans la tâche de ce matin. »« La danse, » rectifia Jake.
Ils se tournèrent vers lui. Il se tenait sur la roue du chariot, pâle et pensif, sa cigarette à la main.
« La danse de ce matin, » dit-il.
Roland parut y réfléchir, puis il hocha la tête. « De son rôle dans la danse de ce matin. S'il arrive assez vite, nous pourrons peut-être le faire taire. Sinon, la mort de son fils n'aura servi qu'à marquer le début du Comala de Ben Slightman. » 19. Slightman avait presque 15 ans de moins que le rancher, aussi arriva-t-il sur les lieux de la bataille bien avant son aîné. Pendant quelques secondes, il resta debout au bord du fossé, à contempler le corps épars du garçon. Il n'y avait plus tellement de sang maintenant, Logan l'avait bu avec avidité. Mais le bras arraché était toujours au même endroit, et ce bras arraché résumait toute l'histoire. Pour rien au monde, Roland ne l'aurait déplacé avant l'arrivée de Slightman. Pas plus qu'il n'aurait ouvert sa braguette pour pisser sur le cadavre du gamin. Slightman, le jeune, avait rejoint la clairière au bout du chemin. Son père, en tant que famille la plus proche, avait le droit de voir où et comment cela s'était passé. L'homme resta silencieux pendant environ 5 secondes, puis il inspira profondément et poussa un hurlement qui glaça les sangs d'Eddie. Il chercha Susanna du regard et vit qu'elle n'était plus là. Il ne pouvait pas la blâmer de s'être esquivée. C'était une scène horrible, la pire qui fut. Slightman tourna la tête à gauche, à droite, puis droit devant lui, et aperçut Roland debout près du chariot retourné, les bras croisés. À côté de lui, Jake était toujours assis sur la roue, à fumer sa première cigarette.
Vouh ! Rugit Slightman. Il portait son bas. À présent, il le détachait de sa sangle. « C'est vous qui avez fait ça! Vous !»
Avec une grande dextérité, Eddie lui prit l'arme des mains.
« Non, camarade, murmura-t-il, tu n'as pas besoin de ça pour l'instant. Pourquoi tu ne me le confierais pas un petit moment ?»
Slightman ne sembla rien remarquer. Si incroyable que cela parut, sa main droite se mit à décrire des mouvements circulaires, comme s'il bandait son bas pour tirer.
« Vous avez tué mon fils! Oh, représailles, salaud! Espèce de salopard d'assassin !»
Avec cette célérité effrayante qu'Eddie n'arrivait toujours pas à admettre, Roland immobilisa Slightman en lui emprisonnant le cou dans le creux de son bras, puis il le tira vers l'avant. Le choc eut le double avantage de faire taire les accusations de l'homme et de le rapprocher de Roland.
« Écoutez-moi !» fit Roland, « et écoutez-moi bien. Je me moque totalement de votre vie et de votre honneur. L'une a été mal employée et l'autre a disparu depuis bien longtemps. Mais votre fils est mort et je me soucie beaucoup de son honneur à lui. Si vous ne la fermez pas à la seconde, espèce de lit de la création, je vous ferai taire moi-même. Alors, que choisissez-vous ? Personnellement, ça m'est complètement égal. Je leur dirai que vous êtes devenu fou en le voyant, que vous m'avez pris mon arme et que vous vous êtes mis une balle dans la tête pour le rejoindre. Alors, c'est à vous de décider. Et vite !»
Eisenhart avait reçu un sacré coup. Pourtant, il gravissait toujours la colline, vacillant parmi le maïs et appelant sa femme d'une voix rauque.
« Margaret ! Margaret ! Réponds-moi, chérie, dis quelque chose, je t'en prie !»
Roland relâcha son emprise sur Slightman et lui jeta un regard sévère. Slightman tourna ses yeux terribles vers Jake.
« Ton Dean a-t-il tué mon fils pour se venger de moi? Dis-moi la vérité, so !»
Jake tira une ultime bouffée de sa cigarette et la jeta. Le mégot rougeoyant tomba dans la poussière près du cheval mort. « Vous l'avez regardé ? » demanda-t-il au pas de Benny. « Aucune balle jamais fabriquée n'aurait pu faire ça. La tête de Cy Eisenhart lui est pratiquement tombée dessus et Benny est sorti en hurlant du fossé devant... l'horreur du spectacle. » Il se rendit compte que c'était un mot qu'il n'avait jamais employé à voix haute, qu'il n'avait jamais eu à utiliser à voix haute. Ils lui ont envoyé 2 vifs d'argent dessus. J'en ai eu un, mais... Il déglutit. On entendit un déclic dans sa gorge. L'autre,
J'aurais pu vous attuiter. J'ai essayé, mais...
Mais son visage était à la torture. Sa voix se brisait. Pourtant, il gardait les yeux secs. Et dans une certaine mesure aussi terrible que ceux de Slightman.
Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir l'autre,
acheva-t-il. Puis il baissa la tête et se mit à sangloter. Roland se tourna vers Slightman en haussant les sourcils.
Très bien, dit ce dernier. Je vois ce qui s'est passé. Où est là? Dites-moi, a-t-il été courageux jusque-là? Dites-le-moi, je vous prie.
Jake et lui ont dû ramener l'un de ces deux-là, dit Eddie en désignant les jumeaux Tavery. La moitié garçon. Il s'était pris le pied dans un trou. Jake et Benny l'ont tiré de là, puis ils l'ont porté. Il en avait du cran, votre garçon. Côte à côte, ils ont lutté, jusqu'au bout.
Slightman acquiesça. Il retira ses lunettes et les regarda comme s'il les voyait pour la première fois de sa vie. Il les tint ainsi devant ses yeux pendant une seconde ou deux, puis il les laissa tomber sur la route et les écrasa du talon de sa botte. Il leva vers Roland et Jake un regard presque contrit.
« Je crois avoir vu tout ce que j'avais besoin de voir, » dit-il.
Puis il se dirigea vers le corps de son fils. Von Eisenhardt émergea du maïs. Il vit sa femme et poussa un mugissement. Puis il déchira sa chemise et se mit à frapper sa poitrine flasque de son poing droit, criant le nom de Margaret à chaque coup.
« Oh, bon sang !» fit Eddie. « Roland, faut que t'arrêtes ça. »«
Pas moi !» répondit le pistolero.
Slightman saisit le bras de son fils et embrassa la paume de sa main avec une tendresse qu'Eddie trouva presque insupportable. Il posa le bras sur la poitrine du garçon, puis revint vers les pistoleros. Sans ses lunettes, son visage avait l'air nu et étrangement inachevé.
« Jake, peux-tu m'aider à trouver une couverture ?»
Jake descendit de la roue du wagon pour lui donner l'aide qu'il lui demandait. Dans la tranchée, à présent découverte, qui leur avait servi de cachette, Eisenhardt serrait la tête brûlée de sa femme contre lui, la berçant sur sa poitrine. Dans le champ de maïs, se rapprochant à présent, venaient les enfants et leur ange gardien, chantant la chanson du riz. Au début, Eddie crut que ce qu'il entendait en provenance de la ville n'était que l'écho répercuté de leur chant. Puis il comprit que c'était le reste de la cala. Ils savaient. Ils avaient entendu les voix, et ils avaient su. Ils arrivaient. Le père Callahan émergea du maïs. Lia Jaffords dans les bras. En dépit du bruit, la petite fille s'était endormie. Callahan jeta un regard en direction des cadavres de loups entassés, dégagea sa main de sous les fesses de l'enfant, et dessina lentement dans l'air une croix tremblante.
« Dieu soit loué !» dit-il.
Roland le rejoignit et prit la main qui avait dessiné la croix.
« Une pour moi aussi, » dit-il.
Callahan le regarda d'un air confus. D'un signe de tête, Roland désigna Von Eisenhardt. Celui-là a juré que je quitterais cette ville avec sa malédiction s'il arrivait quoi que ce soit à sa femme. Il aurait pu en dire plus, mais c'était inutile. Callahan comprit et fit une croix sur le front de Roland. Son ongle imprima sur la peau de Roland une chaleur qu'il ressentit longtemps après. Et bien qu'Eisenhardt ne tint jamais sa promesse, le pistolero ne regretta jamais d'avoir demandé au père ce petit supplément de protection. 20. Il s'ensuivit un jubilé confus, là, sur la route de l'Est, teinté du chagrin du deuil. Pourtant, même le chagrin laissait filtrer la lumière éclatante de la réjouissance. Personne ne semblait considérer les pertes égales aux gains. Et Eddie les comprit. C'était le cas quand vous n'aviez pas perdu une femme ou un fils. Le chant venu de la ville se fit plus fort. On voyait à présent un voile de poussière. Sur la route, les hommes et les femmes tombaient dans les bras les uns des autres. Quelqu'un essaya de retirer la tête de Margaret Eisenhart à son mari, mais il refusait de s'en séparer. Eddie s'adressa à Jack.
« T'as pas vu la guerre des étoiles, pas vrai ?»«
Non, je t'ai dit, j'allais la voir, mais... »«
T'es parti trop tôt, je sais. »
Ces trucs qui secouaient dans tous les sens. Jack, il venait de ce film.
« T'en es sûr ?»«
Oui, mais c'est loup, Jack. Les loups eux-mêmes. » Jack hocha la tête très lentement. À présent, il voyait le groupe de la ville. Les nouveaux arrivants aperçurent les enfants. Tous les enfants, toujours là, sains et saufs. Et poussèrent un hurrah. Ceux en tête de cortège se mirent à courir.
Je sais.
Vraiment ? Demanda Heidi, le regard presque suppliant. Tu sais vraiment ? Parce que, bon sang, c'est tellement dingue ! Jake tourna le regard vers le tas de loups. Les capuches vertes, les collants gris, les bottes noires, les visages hargneux en pleine décomposition. Eddie avait déjà arraché l'une de leurs têtes métalliques pourrissantes pour voir ce qu'il y avait dessous. Rien que du métal lisse, des objectifs en guise d'yeux, une petite grille métallique qui devait faire office de nez, deux microphones sortant des tempes, les oreilles sans doute. Non. La seule once de personnalité de ces créatures résidait dans les masques et les vêtements qu'ils portaient.
Dingue ou pas, je sais ce qu'ils sont, Eddie. Ou d'où ils viennent au moins.
De chez Marvel. Une subtile expression de soulagement se peignit sur le visage d'Eddie. Il se pencha et embrassa Jake sur la joue, lui arrachant une ombre de sourire. C'était pas grand-chose, mais c'était un début.
Les BD de Superman, fit Eddie. Quand j'étais gosse, je raffolais de ces trucs. Moi, je les achetais pas, dit Jake. Mais... Tibby Mucci, de l'entre-deux-quilles. Il avait un gros faible pour les périodiques Marvel. Spider-Man, les Quatre Fantastiques, l'incroyable Hulk, Captain America, tout cela. Ces types,
ils ressemblent à Docteur Doom, devina Eddie.
« Ouais, c'est pas exactement ça. Je suis sûr que les masques ont été modifiés pour ressembler un peu plus à des loups, mais sinon, les mêmes capuches vertes, les mêmes capes vertes, ouais, c'est Docteur Doom. »«
Et les vifs d'argent, t'as déjà entendu parler d'Harry Potter ?»«
Je crois pas, non. Et toi ?»«
Non plus, mais je vais te dire pourquoi. Parce que les vifs d'argent viennent de l'avenir. » Peut-être d'une autre BD Marvel qui sortira en 1999 ou en 1995. Tu vois ce que je veux dire ?
Jay copina du chef. Tout est 19, n'est-ce pas ?
Ouais ? Fit Jake. 19, 99, 1999.
Eddie jeta un œil autour de lui.
Où est Suze ? Probablement parti chercher son fauteuil, suggéra Jake.
Mais avant que l'un ou l'autre ait pu s'interroger plus longtemps sur l'absence de Susanna Dean, et alors il était probablement déjà trop tard, les premiers Falcons arrivèrent de la ville. Eddie et Jake se retrouvèrent emportés dans une folle farandole de réjouissance improvisée. On les enlaçait, on les embrassait, on leur serrait les mains, on billait, on pleurait, on les remerciait encore et encore et encore. 21. 10 minutes après l'arrivée de la première vague en provenance de la ville, Rosalita s'approcha de Roland d'un air réticent. Le pistolero fut extrêmement heureux de la voir. Eben Took l'avait pris par le bras et était en train de lui dire, de lui répéter encore et encore, combien il s'était trompé, tel fort de lui, et il promit que quand Roland et son cas-tête seraient prêts à reprendre la route, Eben Took serait heureux de les équiper de pied en cap sans leur demander un seul centime.
« Roland !»
l'appela Rosa. Roland s'exécuta et la prit par le bras, l'emmenant un peu à l'écart. Les loups avaient été éparpillés sur la route et se faisaient à présent dépouiller sans pitié de leurs biens par les falken transportés de joie et hilar. Des traînards continuaient d'arriver à chaque seconde.
« Rosa, qu'est-ce qu'il y a ?»«
C'est votre dame, Suzanne ?»«
Quoi ?»
demanda Roland en fronçant les sourcils et en regardant autour de lui. Il ne vit pas Susanna et ne parvint pas à se rappeler quand il l'avait vue pour la dernière fois. Quand il avait donné sa cigarette à Jake, il y avait si longtemps que ça? Il le craignait.
Où est-elle?
C'est justement le problème, répondit Rosa. Je ne sais pas. Alors j'ai jeté un œil dans le chariot dans lequel elle est arrivée, pensant qu'elle était allée se reposer, qu'elle était peut-être malade ou qu'elle avait eu un vertige. Mais elle n'y est pas. Et Roland, son fauteuil a disparu.
Bon Dieu, grogna Roland, furieux, en se tapant la cuisse du poing. Bon Dieu!
Rosalita recula d'un pas, alarmée. Où est Eddie? Demanda le pistolero. Elle tendit le doigt. Eddie était tellement englouti dans un groupe d'hommes et de femmes en pleine admiration que Roland se dit qu'il ne l'aurait pas vu s'il n'avait pas eu cet enfant sur les épaules. C'était Haydon Jaffords, souriant jusqu'aux oreilles.
« T'es sûr de vouloir le déranger ?» demanda timidement Rosa. « Peut-être qu'il est juste allé faire un tour pour se remettre. »«
Aller faire un tour, » se dit Roland. Il sentit les ténèbres envahir son cœur désespéré. Elle était allée faire un tour, pas de doute. Et il savait qui était venu prendre sa place. Juste après la bataille, ils avaient relâché leur attention. Entre le chagrin de Jake, les félicitations des Falcon, la confusion, la joie et les chants. Mais il n'avait aucune excuse.
« Pistoleros !»
rugit-il. Et la foule en liesse se tut instantanément. S'il avait pris la peine de regarder, il aurait vu leur peur par-delà le soulagement et l'adulation. Elle n'aurait eu pour lui rien de nouveau. On avait toujours peur de ceux qui portaient les durs calibres. Et tout ce qu'il souhaitait ensuite, c'était leur offrir un dernier pas, peut-être une dernière baise par gratitude, puis les renvoyer sur la route et reprendre leur vie tranquille dans les champs. « Eh bien, » pensa Roland, « nous serons vite partis. » En fait, l'une d'entre nous a même déjà pris les devants.
« Pistoleros ! À moi ! À moi !»
C'est Eddie qui arriva le premier. Il regarda autour de lui. « Où est Susanna ?» Roland pointa le doigt en direction des terres perdues et rocailleuses des Arroyos, puis le leva pour désigner un trou noir situé juste au-dessus de l'horizon. « Là-bas, je pense, » répondit-il. Eddie Dean devint blême. « C'est la grotte de la porte que tu me montres? C'est bien ça ?» Roland acquiesça. « Mais la boule, la 13e noire, elle ne voulait même pas s'en approcher dans l'église du père Callahan. » « Non, Susanna ne voulait pas s'en approcher. » Mais ce n'est plus elle qui commande.
Mia, demanda Jake.
Oui. De ses yeux délavés, Roland scruta le trou noir. Mia va avoir son bébé. Elle va avoir son petit gars.
Non,
lâcha Eddie. Ses mains s'agitèrent et finirent par attraper la chemise de Roland. Autour d'eux, les Falcon les observaient en silence.
« Roland ! Non ! » !»«
On va la suivre, et j'espère qu'il ne sera pas trop tard, » dit Roland. Mais dans son cœur, il savait qu'il était déjà trop tard.